RCF.
Pour les chrétiens, et c'est le fruit de nombreux conciles, le Christ est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Il est celui qui est, qui était et qui vient, selon les Écritures. Alors très vite, la façon de représenter Jésus s'est heurtée à une problématique. Comment peindre le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga ? N'est-ce pas trop difficile, trop ambitieux ? Oui, mais si la beauté est un chemin qui mène vers Dieu, pourquoi faudrait-il y renoncer ? Et puisque Dieu s'est fait homme, alors l'incarnation rend possible la peinture. Voilà toute la problématique à laquelle ont réfléchi les chrétiens pendant des siècles et qui vous a, vous aussi, interpellé, Marina Kopsidas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chrétienne orthodoxe, passionnée par les Écritures. Vous publiez aux éditions de l'Harmattan un livre intitulé « Le Christ Pantocrator ». Vous êtes, on le disait, de confession orthodoxe. Alors c'est vrai que l'image, les icônes ont un rôle particulièrement important, on y reviendra, mais dans votre parcours, il y a justement une image qui vous a marqué, c'est celle du Christ, un Christ tout-puissant. Racontez-nous.
J'accompagnais mon père à la cathédrale orthodoxe rue Georges Bizet et j'étais de petite taille et j'étais fascinée par effectivement l'image du Pantocrator qui est dans l'abside comme dans presque la plupart des églises orthodoxes.
Quand on parle du Christ Pantocrator, c'est certains canons, c'est un Christ qui ressemble à quoi ?
Alors, c'est un Christ qui est tout-puissant, Pantocrator, il faut le dire d'abord, veut dire tout-puissant, et qui soutient le monde, et qui était, comme vous l'avez très bien dit, qui est, qui vient, d'où effectivement cette représentation du Christ Pantocrator assortie des deux lettres, Alpha, le début, Oméga, la fin.
Alors, dans la Bible, il est souvent question de gloire, parce que c'est de cela dont on va parler pendant cette émission. La gloire de Dieu, celle du Christ, la gloire des hommes, on voit bien ce que c'est l'honneur, la renommée, la réussite. Mais quelle est la différence avec la gloire du Christ ?
Pour le Christ, les deux mots qui sont accolés, c'est la gloire et la croix. C'est-à-dire que le Christ, vrai Dieu, vrai homme, vous avez raison de le dire, il faut le redire, vient de façon absolument incroyable l'incarnation. C'est un mystère qui nous dépasse, qui dépasse l'entendement et évidemment nos petits raisonnements. C'est un mystère. Et donc Dieu se fait homme. Et qu'est-ce qu'ils vont voir d'ailleurs dans la crèche un bébé après le Christ quand il a 12 ans commence déjà à impressionner les gens par sa prise de parole. Mais il vit simplement. On sait que quand il rencontre la Samaritaine, il a soif. Il nous dit lui-même qu'il n'a aucun lieu où poser sa tête. Il nous appelle à lui ressembler dans l'humilité. Et donc, il y a l'exemple le plus extraordinaire pour moi de l'humilité du Christ. Le mot très fort, c'est un mot grec qui s'appelle kénos. Il se vide de sa divinité pour devenir un homme parmi d'autres. Et donc, un des exemples magnifiques, c'est le lavement des pieds dans Jean 13 qui précède la passion. C'est-à-dire que le Christ s'agenouille devant ses disciples, je dirais, et quelque part plus loin devant l'humanité, pour montrer le rôle du serviteur qu'il est.
Si on était un peu familier, on vous dirait que la gloire du Christ que vous nous décrivez, ça n'a rien de très glorieux.
Je dirais au contraire. C'est que parce qu'il montre par ses gestes qu'il est vrai homme, mais la vraie gloire, c'est la résurrection, bien sûr. C'est la résurrection, là encore, ça échappe au discours rationnel, dont il y avait quand même un prémisse très intéressant, c'est également dans l'évangile de Jean, c'est quand même la résurrection de Lazare. Parce que Lazare, comme on dit, on le met dans les Écritures, le cadavre sentait déjà. C'est pas juste une jeune fille ou un jeune homme qui viennent de perdre la vie, et auquel effectivement les deux résurrections précédentes, mais là c'est vraiment un cadavre véritable. Donc là il y a un signe d'ailleurs, et là, évidemment la résurrection du Christ est quelque chose d'extraordinaire qui va bouleverser littéralement le monde.
Marina Copsidas, regardons du côté des textes, et notamment du texte de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 17. Jésus, dans sa passion, va demander à Dieu de le glorifier. Et ce texte, donc verset 1, « Ainsi parla Jésus, puis il leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Et puis, un petit peu plus loin, « Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. De quelle gloire est-ce qu'il s'agit et de quelle gloire il ne s'agit pas? Comment comprendre la gloire, le fait d'être glorifié dont parle Jésus?
Alors, la gloire qu'il avait, c'est que, j'allais dire, le Christ est au moment de la création. Cette gloire qu'il avait auprès de Dieu à la création du monde, puisqu'il est le Verbe, Dieu dit, et la gloire surtout, c'est que le Père lui a, j'allais dire, en plein accord avec le Père, il va donner sa vie. Il le dit bien dans cette justement prière chapitre 17 que vous avez tout à fait raison d'évoquer. Il dit bien qu'il offre sa vie. On ne la lui prend pas. Il la donne. Et il faut effectivement ce signe absolument phénoménal qui dépasse l'entendement et qui est donc la résurrection. Et cette résurrection, c'est-à-dire, nous concerne tous, puisqu'il est le signe de la vie éternelle à laquelle, à la suite du Christ, nous sommes appelés.
Cette gloire, elle est donc aussi liée à une action, c'est le fait aussi de triompher de la mort, de triompher du péché, quelque sorte.
Alors, effectivement, par le baptême, le Christ, effectivement, assume... Lui qui est effectivement sans péché assume tous nos péchés et j'allais dire l'obsession de la faute du péché ne sont pas tellement du tout présents au moment de la passion parce qu'il y a à côté du Christ le bon larron, c'est quand même un brigand et qui, ça le mot est très important, se repent et parce qu'il y a ce repentir, le Christ lui dit au soir même tu seras au paradis avec moi. Donc il y a un dépassement du péché, bien sûr, dans la miséricorde. C'est un mot, pour moi, très important, le mot miséricorde.
Alors, on s'arrête justement sur un autre mot, c'est le mot pantocrator, parce que c'est le titre de votre ouvrage, le Christ pantocrator. Qu'est-ce que c'est cette toute-puissance, ce roi de gloire, qu'on ne connaît pas bien en Occident, qu'on appelle aussi parfois le Christ cosmique? Alors tout cela, ça peut paraître assez impressionnant, mais il y a aussi cette idée de la gloire lors de la parousie, c'est-à-dire lors de la fin du monde. Ça aussi, c'est une des composantes du Christ pantocrator.
Alors, la toute-puissance, quand même, il faut surtout quand même déjà se référer à l'Ancien Testament. C'est Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Je vais dire, ça échappe totalement à notre entendement, bien sûr. Avant que Dieu crée la terre, il n'y avait rien. Comment on passe de ce rien? Alors il y a quand même, bon, j'ai une toute petite parenthèse, la théorie du Big Bang avec Georges Lemaître. Fermons la parenthèse où effectivement on parle de rien aussi. Mais donc, tout l'Ancien Testament est très marqué par la toute-puissance de Dieu. Et dans une centaine, je crois, d'occurrences, plus d'une centaine, le mot pantocrator revient. Alors il est celui qui est dans auquel on attribue le nom de le fameux tétragramme Yahvé, qui est normalement imprononçable, parce que ça dépasse l'homme justement, et c'est juste le grand prêtre qui une fois par an s'autorise à prononcer ce nom qui dépasse. Donc. Mmh. Et alors la toute-puissance quand même de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est d'abord et dans la création, après c'est l'élection de l'humanité à travers Abraham, qui va effectivement créer toute cette humanité. Et surtout après, il y a également, il ne faut pas oublier, la théophanie. Dieu se manifeste au Sinaï. Et il est dit qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Donc c'est à travers le buisson ardent que effectivement Dieu se manifeste et qu'il s'adresse également à Moïse avec, après, évidemment, cette alliance qu'il donne et évidemment les 10 commandements. pour diriger, j'allais dire, le peuple d'Israël.
On comprend, vous écoutant, que cette toute puissance de Dieu, cette souveraineté, cette royauté, c'est pas la même que celle de Satan, c'est pas la même que celle de Jupiter chez les païens.
Vous avez tout à fait raison, elle est totalement différente, je dirais plutôt opposée. C'est la celle de Satan et celle du monde, c'est la vaine gloire. C'est la vaine gloire, ce qui est d'ailleurs l'accaparation, donc les richesses, l'orgueil, c'est-à-dire chercher la vanité, les compliments, les plaisirs, donc toutes ces choses qui finalement ne mènent à rien, souvent mènent l'humanité en rivalité dangereuse, qui vont jusqu'aux guerres, hélas. Donc il y a, j'allais dire, la gloire de Dieu qui finalement, il faut pas oublier, quand les apôtres demandent à être premiers, le Christ très très radicalement leur rappelle que c'est le premier qui sera le dernier et inversement le dernier qui sera le premier. Donc là, on a une leçon, j'allais dire, assez claire.
La gloire en trompe-l'œil. Merci beaucoup Marina Copsidas. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre intitulé Le Christ Pantocrator, publié aux éditions de l'Harmattan. Merci à vous, on vous retrouve demain.